Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Vous savez, les bonnes réunions où il y a l'onction, les gens n'ont pas envie de partir. Ils restent vissés sur leur chaise ou debout, puis quand ils sont debout, ils tombent par terre. C'est pas mieux, hein? Et une bonne réunion, c'est une réunion où il y a l'onction et où Dieu nourrit notre esprit. Alors il se passe quelque chose. Même si un message est bien construit, même si une prédication est bien ordonnée, s'il n'y a pas beaucoup d'onction derrière, bon, on retient quelque chose, mais notre esprit n'aura pas forcément été bien nourri. Amen. Alors cet après-midi, on va essayer de nourrir bien comme il faut l'esprit. Hein? Il n'y a pas de jeûne spirituel. D'accord? Alors écoutez, avez-vous dit coucou à votre voisin? Oh, que c'est agréable. Il y en a des coucous ici, hein. Ils vont couver les œufs des autres, attention, hein. En général. Ah, on est une famille. On est une famille. On est une famille et si quelqu'un parmi nous a des problèmes, ça arrive à tout le monde, qu'il ne reste pas seul. Hein? Qu'il ne reste pas seul. Parce que seul avec son problème, ensuite, on devient comme son problème. On s'identifie à son problème. Et si les années passent, on devient comme le problème. Et on en vient à se rejeter puisqu'on rejette son problème. Vous comprenez? Tout ça, c'est des mécanismes qu'il faut découvrir. Hein? Si t'as pas envie de t'ouvrir auprès de quelqu'un, si t'as trop peur de confier quelque chose à quelqu'un, alors prie le Seigneur pour qu'il t'envoie la bonne personne à qui tu pourras parler. D'accord? Et tu partageras ton fardeau avec quelqu'un d'autre. Et ça t'aidera d'ailleurs à le partager avec le Seigneur. Parce qu'il y a des moments où on a honte devant le Seigneur et on lui fait voir notre sainteté. Hein? On se sent culpabilisé, on a peur de Dieu. Alors on lui montre le meilleur de nous-mêmes. Moi, je suis désolé, j'ai plutôt tendance à montrer au Seigneur le pire de moi-même, constamment. Hein? Et puis, il se débrouille avec ça, de toute manière. Depuis ma conversion, il sait que c'est ça. Hein? Il n'a pas tellement le choix. Il sait que c'est ça. L'apôtre Paul disait, il disait quoi? C'est quand je suis faible. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont bien appris la parole? Charles, alors. Un bon point, je rajoute un demi-point là. Ils ont de la mémoire. Oh ben tu les déprécies là, C'est quand je suis faible que je suis fort. Et ça c'est, j'allais dire c'est fort si on veut. Mais c'est important ça. Mais vous savez qu'il y en a quand ils sont faibles, ils en font une dépression et ils n'arrivent plus à trouver la communion avec Dieu. Quand ils se sentent pauvres, ils se sentent coupables. Moi, j'ai appris à gérer ma pauvreté et ma faiblesse et à ne plus les regarder comme des ennemis. C'est important, ça. Et ma pauvreté me fait avoir besoin de Dieu constamment, et ça, c'est extraordinaire, parce que ça se fait tout seul. Puis ma pauvreté me fait comprendre les pauvres. Parce qu'à partir du moment où tu te sens fort, eh bien, tu aimes plutôt les forts, ceux qui sont comme toi. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir toujours une image de nous-mêmes qui soit juste, qui soit vraie, c'est-à-dire qu'on est plutôt pauvre. On est plutôt pauvre, humainement. Hein? Bien sûr, cela s'entend. Alors, je vais lire quelques textes qui vont dans le sens de cette pensée. Et puis, tout à l'heure, on priera ensemble. Hier soir, ça a boumé, quoi. Hein? C'était la grosse boum. Hier soir, ça a bougé. Il y en a qui ont été touchés hier soir, levez la main. Ceux qui ont été touchés par le Saint-Esprit hier soir, levez la main. Hein? Bon, oh, il y en a quand même 3 ou 4. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas plus? Ils sont timides, les Normands, hein? 3-4 fois plus. Ah, voilà. Moi, je suis un Normand, hein? Mais j'ai quitté Rouen à l'âge de 10 ans. Hein. Je suis né place de la cathédrale à Rouen. Hein? Place de la cathédrale, en face. Moi, j'ai vu le bourdon, qui est donc une cloche, hein? Monter dans la tour, comment elle s'appelle, Sainte-Jeanne d'Arc, c'est pas ça, il me semble. Hein. Il y a la tour de Beurre. Et puis il y a de l'autre côté, enfin bon, peu importe comment elle s'appelle. J'ai vu cette énorme cloche monter, et puis être installée là-dedans. Moi j'avais très peur, je me disais ça va tout casser. Quand ils vont l'accrocher, ça va faire péter le toit. Et puis j'ai vu tout ça, et puis il y avait le vitrier qui passait en centre-ville. Vitrier! Vous vous souvenez pas de ça, non? Vitrier! Puis il y avait l'aiguiseur de couteau! L'aiguiseur de couteau! Alors il disait, couteau! Non? Il n'y en a pas qui ont connu ça? Oh, ne me dites pas quand même! Ah! Eh, c'était beau, hein? C'était superbe. On ne voit plus ça, hein? On ne voit plus. Maintenant, on prend le téléphone, hein, pour faire venir le vitrier. Je me demande pourquoi je parle de ça, hein? Oh, ben, on est en famille, hein? Hein? On peut s'en raconter des choses. Alors nous allons lire dans l'Épître aux Romains. Attendez, on va lire d'abord dans l'Épître aux Corinthiens, 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 26. Ah, que c'est bien d'être ensemble. Un Corinthiens, verset 26. Ça va au fond? Oh, il y en a qu'un qui a répondu oui. Allez là. Oui. Oui. Bon. C'est bien, ça bouge. Le premier que joue avec son oreiller. C'est pas possible. Oui. Bon. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen. Tu te reconnais là?
Oui.
Est-ce que tu es un petit peu fou?
Oui.
Un petit peu faible? Complètement, il y en a qui... C'est irrémédiable. C'est sans possibilité de retour. Alors, donc, tu es un peu fou? Tu es un peu faible? Tu es un peu vil? Tu te reconnais là? Moi, je me reconnais bien. Et l'apôtre Paul en était arrivé à se glorifier de cela. Amen. Il y en a qui se glorifient parce qu'ils sont bien, parce qu'ils sont, ils sont forts, ils sont capables. Nous nous glorifions parce que c'est plutôt le contraire. Et ça permet à qui de se glorifier en nous? Ça permet à Dieu de se glorifier. Alléluia. Un vase vide, Dieu peut le remplir. Un vase plein, remplissez-le. Ça coulera à côté. Ça va déborder. Vous savez, c'est simple les choses spirituelles. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Puis il n'y a rien qui se fait. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Le temps passe, les semaines, les mois. Rien qui se fait. Ça veut peut-être dire, c'est pas sûr, mais ça veut peut-être dire que tu es plein de... Oh, pas plein, plein quoi, hein? Mais plein de toi-même, plein d'orgueil peut-être, plein... Vous savez, il n'y a pas que l'orgueil, il y a la confiance excessive en soi-même. Hein? La confiance excessive en soi-même, ce n'est pas forcément de l'orgueil, ça. Il faut qu'on apprenne à la fois à avoir confiance en nous et à la fois à avoir complètement confiance en Dieu. Amen. Mais sans tomber dans les excès, c'est-à-dire l'orgueil. Ou l'inverse, la honte. Le mépris de soi-même. On n'a plus du tout confiance en soi-même, donc on rate tout, puisqu'on ne croit pas qu'on est capable d'y arriver. Ça, c'est la foi négative. Je remercie Dieu qu'il a voulu choisir les choses faibles, folles, et quoi d'autre, on a dit le ville. Moi, je remercie le Seigneur, parce que c'est ça qui nous pousse à aller évangéliser, parce qu'on a toujours un feu envers les paumés, parce qu'on se sent nous-mêmes encore humainement un paumé. J'espère que vous vous sentez bien comme ça, parce que ça aide pour l'évangélisation. Le feu pour l'évangélisation, alors quand on sait que nous, on n'est vraiment pas grand-chose, qu'est-ce que ça nous aide? On a envie de parler à ceux qui sont comme nous. Hein? Et on n'a pas de mal à leur parler d'ailleurs. Alors on va lire un deuxième texte. On va lire un deuxième texte, Épître aux Romains, chapitre 7, verset 14. C'est le grand apôtre... attendez, c'est l'Épître aux Romains, donc on ne sait pas trop, on n'est pas sûr qu'il l'a écrit. Mais en tout cas... Celui qui parle dit ceci, chapitre 7, verset 14. Non, je confonds avec l'Épître aux Hébreux, pardon. Ça, c'est bien Paul qui l'a écrit. Vous voyez, hein, quand même, hein, il se fait tard. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Venant de l'apôtre Paul, c'est impressionnant. Hein? Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire... dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Alors, on voit un petit peu plus loin. Quand je veux, c'est verset 21, faire le mal est attaché à moi. C'est le grand apôtre Paul qui nous parle. Lui, un homme dont on considère qu'il avait drôlement de la volonté. C'était un homme capable. Il nous dévoile son cœur. Et il nous dit des confidences. Et pire que ça, il l'écrit. Et nous, 2000 ans après, on peut le savoir. Paul était humble. Il y a une différence entre dire des choses à un micro et l'écrire quand on sait que ça va être conservé. L'apôtre Paul luttait en lui-même. Il le dit... Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. En êtes-vous là? Avez-vous découvert cela en vous-même? Alors c'est le commencement de la sagesse. Si vous avez découvert que vous n'arrivez pas par vous-même, c'est le commencement de la sagesse. Vous connaissez la parabole des deux fils? Oui? Le père... a dit à ses fistons, et vous allez travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il y en a un qui était toujours très soumis, oui, pas, j'y vais. Alors, il sort et il part. Et puis en chemin, je dis après tout, hein, il n'a pas tant besoin de moi que cela, j'y vais pas. Et puis il y a l'autre, le fils rebelle. Il y a le père qui lui dit, tu vas travailler. Oh, encore, mais tu me casses les pieds, tu me casses les pieds. Oh, les vieux. Et puis il refuse, il se rebelle, il dit non, rien à faire. Et puis, en chemin, finalement, il y va. Il y va. J'aimerais parler cet après-midi un petit peu de la volonté. Et puis d'autres choses, on verra bien. La volonté. Tous, on veut pour le Seigneur. On veut obéir. On veut servir, on veut s'engager, on veut marcher, on veut courir, on veut aller vite pour le Seigneur, on veut qu'il nous bénisse. Il y a différents degrés dans la volonté. Il y en a qui veulent, mais émotionnellement. Alors, quand il y a une onction forte, quand le domaine des émotions est touché par Dieu, alors c'est sûr qu'ils vont s'avancer à l'appel. Ils ressentent la paix, ils sentent quelque chose de positif en eux, ils disent « je veux ». Et c'est vrai, vous les trouverez toujours dans les appels. Et puis, quand les émotions de paix ont disparu, il n'y a plus grand-chose, il ne reste plus grand-chose. Ça, c'est le chrétien émotionnel. Vous avez aussi le chrétien qui est très volontaire. Il a beaucoup de volonté. Alors, à tous les appels, il est là. Oui, je veux. Hein? Il est rempli de bonne volonté. Mais quand ses émotions sont contraires, là encore, il va peut-être faillir. Et puis, vous avez le chrétien intellectuel. Alors, lui, il veut. Il veut parce que sa raison lui dit que c'est bien. Mais quand Dieu lui donne une autre pensée que la sienne, patatrac, la volonté se casse la figure. Quelle est notre volonté réelle? Vous savez, il y a ceux qui disent « Oui Seigneur, je veux bien. Je veux bien. » Est-ce que « je veux bien » ça veut dire « je veux » Répondez-moi. « Je veux bien. » C'est peut-être une réponse de Normand, je ne sais pas. Hein? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Je veux bien. Je veux bien, c'est-à-dire, je suis pas contre. Mais je suis pas forcément pour non plus. À la rigueur, je laisserai passer. Tu peux. Je veux bien. On répond comme ça au Seigneur quelquefois. Derrière un oui, je veux, on va tomber à genoux à l'appel. On dit oui. Quelquefois, c'est je veux bien. C'est-à-dire, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Oh, c'est bien quand Dieu nous coince, hein. Et qu'il y a des moments où on peut pas faire autrement. Hein, vous êtes d'accord? Ça nous aide pour certaines choses. Ça nous aide. Je veux bien. Oui, il y en a qui disent, je veux, mais, Seigneur, résous d'abord ce problème dans ma vie, et là, oh, alors tu peux compter sur moi, hein. Alors là, t'auras pas besoin de le dire deux fois. Mais il se trouve que j'ai ce problème. Il se trouve que j'arrive pas à prier le matin. Il se trouve que j'arrive pas à lire ma Bible. Il se trouve que j'arrive pas à l'évangéliser. Il se trouve que ça va mal avec ma femme. Et Seigneur, je t'en supplie, résous ces quatre problèmes. Et là, je suis ton homme. On peut dire aussi, je veux, si. Alors Seigneur, je suis d'accord d'aller évangéliser, mais... Alors, voyons, le nord, non, je veux pas, il ferait trop froid. Pas dans le nord de la France. Les Alsaciens, ils sont un peu germaniques, ils sont un petit peu célestes, ils sont un petit peu cassants. Ceux de l'ouest, les Normands, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et puis les Bretons sont peut-être un peu trop religieux. Ah, par contre, les gens du sud, oh, là-bas, il y a des piscines, il y a la mer. Seigneur, tu peux m'envoyer là-bas, Et il y a du soleil. Et il y a du soleil, hein. Vous savez que plus il y a de soleil, plus on descend vers le sud. Excusez-moi de dire ça, mais plus il y a d'impureté. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et on peut comprendre pourquoi. Je ne vous dirai pas pourquoi. Réfléchissez. Je veux bien, Seigneur, je veux, si... Voilà. Alors, c'est le si conditionnel. Et Dieu, il essaie de se retrouver dans tout ça. Vous savez, il a des microfiches. Enfin bon, il y a 10 ans, j'aurais dit il a des microfiches. Maintenant, je dirais simplement qu'il a un bon... Comment ça s'appelle? Oh, c'est pas un traitement de texte, ça. C'est quoi? Allez, les informaticiens, là. Une bonne base de données, c'est ça qu'il faut dire? Il a une bonne base de données, le Seigneur. Alors, voyons. Le Seigneur veut envoyer quelqu'un à Cherbourg, demain. Alors, il introduit la donnée, Cherbourg... Il appuie sur Enter. Brrr. Ah, il y a des noms qui apparaissent. Et puis il regarde. Ah, il y en a un qui veut bien partir pour Cherbourg, mais il veut y aller l'été seulement. Voyons. Ah, il veut y aller l'été et s'il est accompagné. Et puis voyons, au niveau du prix, oh, faut lui payer son voyage. J'irai, Seigneur, si tu me donnes l'argent. Si je suis accompagné... Et tu peux m'envoyer en juillet et en août. Oh là 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 là. Vous savez, je m'inclus bien hein, dans ceux dont je parle. Je suis pas meilleur. On a tous une volonté un petit peu en accordéon. Hein. C'est en accordéon. Oui, je veux bien parler pour toi, Seigneur, je veux bien témoigner, mais je suis timide. Et j'arrive pas. Alors, je veux bien aller parler là sur l'estrade, mais si je suis en groupe, et puis qu'on me donne pas le micro, tout de suite, je veux bien parler en troisième position. Puis s'il y a un public sympathique, ça ira. Je crois que la plupart ont dit oui à Dieu. Mais de plus en plus, il y a des cases vides. Dieu ne peut pas tellement compter sur nous pour de plus en plus de choses. Et vous savez, ils le savent en Afrique. Les missionnaires, moi je vais en Afrique deux fois par an, enseigner dans les écoles publiques et puis faire tenir des campagnes, des réunions. Les missionnaires, là-bas, ont souvent 50, 60 ans à l'heure actuelle. Ils se sont donnés à fond, ils sont usés. Vous savez quel est le problème? Il y a des bâtiments, il y a des églises, mais il n'y a plus de relève. Bon, je suis d'accord que la relève doit venir de nos frères africains, qui eux-mêmes, ensuite, vont gérer les églises. Et ça se produit dans beaucoup d'endroits. Mais il y a des endroits encore fragiles. Il y a des endroits où il n'y a pas encore de ministère africain qui se lève. Et il faudrait la relève. Il n'y a personne. Moi, je discute avec eux. Ils sont même quelquefois un peu déprimés, voire dépressifs. Il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Oh, je parle de l'Afrique, mais je vais parler d'ici, en Europe. Combien y a-t-il d'églises, d'œuvres, où il n'y a pas de relève? Moi, je me souviens, excusez-moi, je me souviens il y a combien de temps? Il y a 25 ans, il y avait ces groupes de jeunes dans les rues, mais qu'est-ce qu'on accrochait, hein? On passait du temps dans les rues. Il y en a qui ont fait ça autrefois, levez la main. Ceux qui ont fait beaucoup d'évangélisation de rue. Ouais, il y en a. Mais les groupes de jeunes, on sortait au moins une fois par semaine, dans les rues, dans les bars, on prenait les guitares, on était plein de traités bibliques dans toutes les poches, on en avait même en russe, en allemand, en arabe, on était organisés, et là, on contactait, Jésus t'aime, on était bourrés d'autocollants, on avait, mais... tellement de choses pour annoncer l'évangile. Moi, je suis surpris. Je circule quelquefois dans les centres-villes, je vois plus de groupes de jeunes. Je dis pas qu'il y en a plus qui y vont, hein. Je suis presque jamais accroché, on me dit presque plus jamais Jésus t'aime. Par contre, il y a plein de gens devant les télés, il y a plein de gens dans les supermarchés, il y a plein de jeunes devant les jeux vidéo. Et il n'y a plus personne dans la rue pour évangéliser. Je parle de l'évangélisation, mais je pourrais parler de quantité d'autres choses. Je connais des écoles bibliques qui ont dû fermer. Je connais des écoles bibliques qui sont, comme on appelle, en stand-by, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Et en discutant avec le directeur, je lui dis, mais quel est le problème? Il n'y a plus d'étudiants. C'est un problème, ça, quand on a la structure. Et il n'y a plus de clients. Ah oui. Et beaucoup d'écoles bibliques maintenant traversent des choses difficiles parce qu'il n'y a plus de gens qui veulent passer un an, deux ans. Est-ce que c'est lié au chômage? J'en sais rien. On a peur de faire une école biblique, d'interrompre sa vie professionnelle pour faire une école biblique. Je ne sais pas, il y a différentes raisons. Et je connais quantité d'autres œuvres où il n'y a plus de relève. Le matériel est là, les salles sont là, il y a les chaises, il y a tout, il y a même les finances. Je suis arrivé dans des lieux où je savais, on me disait, mais tu sais, on a tout ce qu'il faut, hein. Financièrement, il y a tout, les caisses sont pleines. Mais il n'y a plus de candidats pour prendre la relève, pour passer derrière le micro, pour donner sa vie. Il n'y a plus grand monde. Il y a même des églises où c'est toujours sale par terre. Puis je dis au pasteur, mais comment tu y arrives? Ben oui, mais il n'y a plus personne pour balayer. Alors le pasteur, il est là. Angoissé, il tient sa liste et il passe 10 minutes le dimanche matin à faire lever 2-3 mains. Alors vous savez, il fait un appel, hein, levez les mains. Alors les gens pensent que peut-être la conversion, non, pour passer le balai. Oh, il n'y a pas grand monde. Et c'est devenu comme ça maintenant. Et c'est de pire en pire. Et en Afrique, ça se fait ressentir. Alors par contre, il y a beaucoup de vocations africaine. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se lèvent en Afrique. Alléluia, ça c'est vraiment merveilleux. Mais les Européens qui, momentanément, vont leur donner un coup de main, vont payer leur voyage, vont juste avoir à manger plus leur Bible et se lancer, on n'en trouve plus. Ils sont où? Ils sont au boulot, ils ont un bon salaire, ils ont une belle voiture, femme, enfant, bon, de toute manière, et puis ils partent plus. Alors on se tourne vers le Seigneur, « Seigneur, envoie, envoie des ouvriers !» Et le Seigneur de répondre, « Mais les ouvriers, je les ai choisis !» Et je voudrais qu'ils partent, mais ils y vont pas. Alors, dans nos cœurs, il y a une réforme à faire. Oui, mais, oui, si, puis je suis très occupé, je me suis engagé dans telle association, alors tu sais, pasteur, je peux pas venir à la réunion en semaine, puis les enfants, moi j'admire les pères de famille qui se sacrifient, hein, pour ne pas aller à la réunion, ils se sacrifient, ils restent à la maison, dans la semaine. Bon, alors c'est bien, mais faudrait alterner, faudrait que ce soit peut-être la maman une autre fois, qu'on voit aussi les pères aux réunions dans la semaine. Faudrait alterner. Moi j'ai l'impression qu'on est dans une époque où on prend beaucoup de prétextes. Beaucoup de prétextes pour ne pas faire pour le Seigneur. Alors par contre, on écoute, on voit, on regarde, on est des dégustateurs des choses de Dieu. Dégustateurs. Il y a des œnologues. Il y en a qui ont la science pour goûter. Ils ont des tastes vins. Alors ils goûtent la grâce de Dieu un petit peu. Ils vont une petite imposition des mains. Oh, ça m'a fait du bien, derrière l'oreille. J'y reviendrai. J'ai eu un frisson là. Là. Et puis mes genoux, ils ont fait ça. Avec celui-ci, quand je m'approche, mes genoux font ça. Et ça, c'est nouveau. C'est oh. On voit de tout. Quand Dieu demande à un homme, à une femme, de le servir, il a tout préparé d'avance. Il a planifié l'appel. Tout est prêt. Bon, on pourrait lire beaucoup d'autres textes. Beaucoup d'autres textes, mais on n'aura pas le temps cet après-midi. Où il est dit que Dieu a préparé, c'est dans Éphésiens, dites-moi, Éphésiens. Car Dieu a préparé afin que nous les pratiquions. Hein? C'est préparé d'avance. Vous vous doutez où je veux en venir à la fin de ma réunion. Hein? Vous brûlez là. Hein? J'ai l'impression qu'il y en a qui sentent. Ouh, qu'est-ce que c'est là? Ça sent pas tellement bon pour moi. Ouh, qu'est-ce qu'il aborde là comme point? L'engagement. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui n'ont pas froid aux yeux, qui sont prêts à perdre. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je répète. Dieu appelle des hommes et des femmes qui sont prêts à perdre leur vie pour gagner Christ. Une fois, c'était dans une église à Lyon. J'ai commencé mon message, c'était très chaud, l'ambiance était chaleureuse et tout. J'ai dit, le titre de mon message, c'est « Dieu nous appelle à perdre ». Oh, ça leur a coupé le souffle. Souffle coupé, le pasteur commence à me regarder du coin de l'œil sur l'estrade, on sait ce que ça signifie. Ça veut dire attention. Et puis j'ai laissé flotter. Oh, l'ambiance est retombée. Et puis j'ai expliqué ce que je voulais dire. Il n'y en a pas beaucoup parmi nous qui sont prêts à perdre. Nous voulons tous gagner. Mais le problème, c'est que nous voulons gagner pour nous. Nous ne voulons pas forcément gagner pour le Seigneur. Or, pour gagner pour le Seigneur, il y en a plusieurs parmi nous qui pourraient le dire, il faut apprendre à perdre pour soi-même. Moi, j'étais dans l'hôtellerie. J'ai fait donc 5 années d'école hôtelière. J'ai eu un BTS de gestion hôtelière. J'ai travaillé chez Hilton, Intercontinental, dans les services comptabilité, tout ça. Et j'avais une belle carrière professionnelle devant moi. Et au bout d'un an que je travaillais au Hilton de la Tour Eiffel, le Seigneur m'a appelé à son service. Tout seul, j'ai décidé de ne plus prendre qu'un mi-temps. Alors je suis allé voir le chef comptable, voilà. Il s'appelait Monsieur Malek, je me souviens. Hein, Monsieur Malek, je suis venu vous voir. Je vous quitte parce que je vais prendre un travail à plein temps. Ah bon, pourquoi Philippe? Eh ben voilà. Je veux servir Dieu. Ah bon? Puis je lui ai tout expliqué. Et puis le miracle, c'est qu'il me dit, écoutez Philippe, moi je vous reprends, je vous change le contrat, le même travail que vous avez là, je vous reprends à mi-temps. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur a honoré ma foi. Et puis je suis passé à mi-temps. Et au bout de quelques mois, j'y suis allé. Monsieur Malek? Oui. Je vous quitte. Alors, et c'est lui qui a parlé. Il a dit, bon, ben, vous voulez faire l'école biblique? On connaît, hein? Alors, j'ai un petit peu subi ça aussi. Et puis, je suis arrivé à l'école biblique. C'était extraordinaire, une bonne école biblique où on vivait par la foi. On devait se loger, se nourrir, et il y a simplement les cours qui nous étaient fournis. Tout le reste, et c'était à plein temps, tout le reste, ben, fallait prier. Alors voilà, moi je suis arrivé avec mes 300 francs à l'époque sur mon livret de caisse d'épargne. J'avais plus que 300 francs. Et je suis arrivé dans le logement de quelques étudiants qu'ils avaient pris. Et puis, catastrophe. Les radiateurs venaient de péter, quoi. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils étaient partis en tournée d'évangélisation et pendant ils n'avaient pas laissé le chauffage ouvert et pendant ce temps-là, il a gelé. Alors j'arrive dans le logement, radiateur gelé, pas de chauffage. Le lendemain, ils sont arrivés, les étudiants, ils ont vu ça et puis ils ont dit, bon, on va prier pour ça. On a prié pendant 2 jours. Seigneur, donne l'argent, donne les fonds, faut qu'on répare le chauffage. Pendant 2 jours, j'ai préféré me couvrir avec des couvertures. J'avais 300 francs à la caisse d'épargne. À l'époque, c'était en 75. Ça représentait peut-être, je sais pas, 1000 ou 1500 francs à l'heure actuelle, hein, convertissés en euros. Vous savez le faire maintenant. Vous êtes devenu intelligent. Pendant 2 jours, moi qui avais de l'argent, eux, ils avaient rien. J'ai dit, bah ouais, le Seigneur va envoyer. Il va envoyer. Et puis quand même le 2e jour, oh, j'ai dit, Seigneur, il fait froid. Hein. Il fait froid. C'est comme ça que le Seigneur fait, hein, pour grignoter. Et puis le dernier soir, là, au bout du 2e jour, je tenais plus. Je suis vite passé à la caisse d'épargne. J'ai retiré les 300 francs. Allez, rompez. Je l'ai donné au responsable de l'appartement. Le lendemain, le réparateur était là. Et on a eu de la chaleur. Alléluia. Le surlendemain, j'ouvre mon courrier. Qu'est-ce qu'il y avait d'après vous? Un chèque de 300 francs venant de 500 kilomètres de là, de quelqu'un qui ne savait pas du tout cette histoire. Alléluia. Donne et tu recevras. Un robinet, s'il ne donne pas de son eau, la tuyauterie, l'eau qui reste dans la tuyauterie, comment elle devient? Elle stagne. Elle a un goût de rouille. Mais si le robinet accepte de donner ce qu'il a à l'intérieur de lui-même, il en reçoit aussitôt plus. Vous savez, ça va vite, hein. C'est le problème de la pression, là. Ça va très très vite. Ouvrez un robinet, ça gicle. C'est la même chose au niveau spirituel, frères et sœurs. Et j'ai autant à apprendre que vous dans ce domaine-là. Celui qui donne, il reçoit. Alors, elle est où la citerne? Où c'est qu'elle est? Au ciel, la citerne. Bah oui, château d'eau, en général, c'est élevé. Hein. La citerne, elle est au ciel. Le robinet, il est où? Où ça? Bah qu'est-ce que j'en vois des robinets, là, hein? Ouh! Vous ne voulez pas dire à Charles qu'il a une tête de robinet, il va me prendre à part. Ah, c'est parce que je le connais bien maintenant que je peux me permettre de plaisanter avec lui, comme ça. Non, on va choisir quelqu'un d'autre. Voyons qui c'est qui a vraiment une tête de robinet ici. Nous sommes tous comme des robinets. Alors, quelquefois, nous fermons le robinet. Hein, bien fermé, puis on change le joint. Hein, on change le joint pour pas qu'il y ait de fuite. C'est 500 francs la fuite. Vous connaissez ça au niveau des WC. Une chasse d'eau où il y a une toute petite fuite, ça a été évalué. Hein, ça coûte 500 francs d'eau par mois. Par an, pardon. Excusez-moi. Non, ça serait une grosse fuite, là. Par an, 500 francs par an. Réparez vos joints. Hein. Un joint, ça coûte 20 francs. Hein. Alors, il y a des chrétiens, ils changent bien leurs joints. Ils veulent surtout pas qu'il y ait de fuite. Alors, ils ouvrent de temps en temps. Pss, pss. Histoire de mouiller un petit peu autour, là. Mais la plupart du temps, c'est fermé. Et ils prient, Seigneur, tu vois, comme c'est la sécheresse. Seigneur, la sécheresse. C'est la sécheresse dans ma vie. Et le Seigneur veut dire, oh, oh. Ouvre le robinet. Ça va être mouillé. Tu vas avoir de l'eau. Tu vas pouvoir te baigner dedans. Ça, c'est une image que je vous laisse. Je l'ai apprise. Et vous savez, c'est pas forcément acquis en moi. Il y a encore des points où je ferme le robinet, bien sûr. Plus tu ouvres le robinet, plus il y a de l'eau qui sort, plus tu fais des heureux, surtout quand c'est à Vittel ou à Saint-Yor ou à Vichy-Saint-Yor ou ailleurs. Tu fais des heureux, il y en a même qui se baladent avec leurs petits gobelets hein, en permanence, c'est les curistes. Plus tu ouvres le robinet, plus les autres vont venir se désaltérer, tu seras moins seul, ils vont venir chercher de l'eau. Ils vont venir. Il y a des chrétiens qui prient, je suis seul. Seul, de plus en plus seul. Est-ce que tu as appris à donner ce que tu as reçu? Si tu donnes, tu vas en avoir des clients. Tu vas en avoir des gens qui vont te côtoyer. La sonnette à la porte, elle va retentir. Et oui, si tu t'apprends à donner, les autres vont repérer. Tiens, quand je lui parle, il se passe quelque chose. Je reçois de lui. Tiens, donne-moi ton numéro de téléphone. Et on lui retéléphone. Où est-ce que tu habites? On va le voir. On le visite. On aime le voir à l'église. Ceux qui donnent, en général, ne reste pas seul. Si le grain de blé ne meurt, voilà, il reste seul. Il reste seul. Le grain de blé, il perd tout. Il perd tout. Vous ne le retrouvez plus après. Quand il est en terre, quand il y a de l'eau, de la lumière et du temps, vous ne le retrouvez plus. Vous trouvez quoi? Une tige qui sort de terre et au bout de la tige, il y a quoi? Un épi. Et l'épi porte quoi? Ah, 30, 60, etc. Alléluia. Même principe que le robinet de tout à l'heure. Ah, oh, vous êtes devenus des plombs, vous allez devenir des plombiers, des agriculteurs. T'as reçu quelle onction là-bas à Louveteau? J'ai reçu l'onction du plombier, figure-toi. Et il m'a dit que c'est l'onction du robinet ouvert. Alors nous, on retient. Alors moi, j'étais avec mes 300 francs à la caisse d'épargne et je m'étais dit, on ne sait jamais, en cas de pépin, ça va me servir. Ah, vous savez, Dieu, il entend et il voit. Hein. Le pépin, il était déjà prévu. Hein. Il a eu lieu deux jours avant que j'arrive à l'école biblique, le pépin. Mais vous savez, j'ai tout compris après. Après, dans mon ministère, j'ai dû partir en Afrique. J'ai fixé les dates à l'avance. J'avais pas d'argent. Et l'argent arrivait au moment où je devais payer l'agence de voyage. Et je fonctionne toujours comme ça. Et si je regardais mon compte en banque, j'entreprendrais rien pour le Seigneur. Quelquefois, si on regarde notre état de santé, on n'a rien envie d'entreprendre pour le Seigneur. On se dit, ben non, c'est pas possible, j'ai ça, j'ai telle maladie. Il y a des moments où le Seigneur nous demande de dépasser tout ça, de nous sacrifier, d'aller en avant. Ce n'est pas valable seulement en matière de finances, c'est valable au niveau des dons spirituels. Pourquoi dans une assemblée y a-t-il si peu de gens qui ont des dons spirituels dans certains endroits? C'est le même principe. Ceux qui prophétisent et qui utilisent les dons spirituels, c'est ceux qui aiment donner. En général, c'est ça. Il y a aussi la soif de pouvoir. Bon, mais ça, on la traite avec le temps. Hein? Quand on a des dons spirituels, on s'aperçoit qu'on a un pouvoir. Alors bon, on y va, allez, hop, et que je te prophétise, allez. Le Seigneur, au bout d'un moment, il nous dit, oh, pour qui tu prophétises et pourquoi? Bon, et puis on règle nos comptes. Il nous purifie. Eh oui, peu de dons spirituels. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas donner. Oh, je suis trop timide. Il y avait un missionnaire qui était rentré de congé depuis 6 mois en France et il était dans son église locale. Il était désespéré. Il voulait repartir en mission, mais il n'avait pas le feu vert du Seigneur. Et un jour excédé, il dit, « Seigneur, réponds-moi, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. » Et il y a une vieille femme, là, à 3 ans, toute fripée, elle se lève en flèche comme ça, la porte, elle se lève de sa chaise, et elle dit tout fort, « Maintenant, qu'il se rassied. » Le pasteur regarde. Mais il y avait un homme dans le fond qui commençait à pleurer. C'était immédiat. Il a pleuré, il a capté la voix de Dieu. Il savait que c'était lui. Il venait juste de prier, « Seigneur, quand est-ce que je vais partir, j'en peux plus. » Maintenant. Alors il est allé voir l'autre pasteur, les anciens, ils ont prié ensemble, ils ont discerné que c'était le moment. Avec un don spirituel, en notre parenthèse, les dons spirituels ne nous appartiennent pas. Hein. Ils sont à Dieu et ils sont à l'église pour l'édification commune. Tu peux bénir les autres au travers des dons spirituels, même si tu es faible, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Faible, fou et quoi? Vil. Il faudrait que chaque chrétien puisse faire l'expérience de recevoir un don spirituel et de l'utiliser pour l'utilité commune. Il faudrait qu'il y ait trop de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, de prophétie. Vous savez, comme dans certaines conventions où on est obligé de mettre un frère là pour stopper les gens, tellement ils en ont, ils en reçoivent. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, par exemple, il manque de missionnaires et en France, de plus en plus, il manque de serviteurs dans certaines œuvres? Il y a des domaines où c'est pas pourvu. Alors il y a une personne ensuite qui maintient la chose. Elle prie, « Seigneur, quand est-ce que tu vas m'envoyer quelqu'un? J'en peux plus !» Elle souffre. Et le Seigneur, à l'autre bout, il en choisit cinq. Cinq personnes qui sont là, « Seigneur, je suis prêt, tu peux m'envoyer, patati, patata. » Alors le Seigneur il dit, « Vas-y. » Oui, mais, « Vas-y. » Oui, si. Vas-y. Je veux bien. Dans 3 mois. Vas-y. Je pourvoirai. J'ai pas d'argent. Je pourvoirai. Mais j'ai pas d'argent. Je pourvoirai. Mon père est malade. Je guérirai ton père. J'ai pas de voiture. Mais je te donnerai une voiture. Une mauvaise santé. Je poserai ma main sur toi. Et ça ira dans ta santé. Oui, mais maman, qu'est-ce qu'elle... Passer un temps où elle ne sera pas contente. Moi, je lui montrerai que tu as eu raison de faire ça. Et elle reviendra vers toi, ta maman. Et elle verra que tu es vraiment quelqu'un qui obéit. Et du coup, elle va se convertir. Ah, quand on veut plaire à ses parents, plus qu'à Dieu. Quand on veut plaire à ses parents, plus qu'à Dieu. Quand on veut plaire à l'argent plus qu'à Dieu. Le chômage. Oh ben non, je ne vais quand même pas quitter mon travail. Parce qu'au bout de 2 ans, j'en retrouverai pas. Et puis mes droits à la retraite, hein, ça me fera 2 ans de moins. Combien de trimestres? 2 ans? Ça fait 8 trimestres. Allez, j'aurai plus le compte, ma retraite, etc. Mais il y a 20 ou 30 ans, on n'était pas des saints. Hein, mais c'est curieux, on ne se posait même pas la question de ça. On y allait. Ah, on y allait, on y allait. Et puis c'est vrai qu'il y a eu une période très riche d'évangélisation dans les villes, un peu partout. Il y avait des vocations, il y en avait qui partaient en Afrique. Et maintenant, c'est au compte-gouttes. C'est au compte-gouttes. Pourquoi? Parce qu'on a subi l'influence de la société de consommation. Cette société, vous savez qu'elle va au culte. Ils vont tous au culte. Tous. Ils vont au culte du mois. Pas le culte du mois, le mois de mars. Hein. Le culte du mois, moi. Moi. Me faire plaisir, moi. Moi. Mon petit jardin, mon petit potager, ma petite femme, mes enfants, les patatis, la voiture, peau de chamois. Ah, c'est un shampoing, cirant. C'est marqué même auto-cirant. Ça cire mon auto et c'est auto-cirant, ça se cire tout seul.